Donc nous aurons à nouveau la parole de Dieu dans Romains chapitre 5. Nous allons relire ce passage qui commence au verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Romains chapitre 5, à partir du verset 12, l'apôtre Paul écrit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ. Notre Seigneur, et jusque-là, la parole de Dieu. Nous allons commencer par une image. Il y a des personnes, je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a des personnes qui aiment gravir les sommets les plus hauts. Je ne sais pas si... Non, je ne pense pas que quelqu'un ait gravi l'Himalaya. Mais il y en a qui aiment gravir l'Himalaya ou le Kilimandjaro ou des sommets comme ça. Et ces personnes savent qu'on ne commence pas au bas pour arriver au sommet en une seule fois. Ils vont monter, puis à un moment, ils vont établir un camp de base. Ils vont monter un peu plus haut, revenir au camp de base, et ensuite, quand ils sont prêts, monter, établir un deuxième camp de base, et finalement arriver au sommet. Là, ça leur permet de s'acclimater au fait d'être à une hauteur si élevée par rapport au niveau de la mer. Et finalement, donc, au bout d'un certain temps, ils arrivent au sommet. Et cette image ou cette métaphore, finalement, est assez bonne pour décrire ce que Paul est en train de faire dans cette lettre aux Romains. Et il procède de cette manière. Il va nous emmener assez loin. Ensuite, il va nous emmener un peu plus loin, puis nous dire, non, on va revenir au camp de base. Et on va suivre son enseignement, son raisonnement. Il va nous emmener, par exemple, il va nous parler de la loi. Il a déjà fait allusion à cela. Il va le développer un peu plus tard au chapitre 7. Mais de temps en temps, il va nous emmener. Et puis on revient au camp de base pour être sûr qu'on a bien compris avant d'aller plus loin. Dans ce passage que nous avons étudié depuis ces dernières semaines, c'est ce qu'il est en train de faire, de nous ramener sans arrêt au camp de base et de nous reposer sans arrêt des questions. Comment est-ce qu'il est possible que, à la lumière de ce que nous avons vu, nous qui étions morts dans nos péchés, nous qui étions les ennemis de Dieu, qui étions sans espoir dans ce monde, nous pouvons maintenant nous glorifier dans l'espérance de la gloire. Nous pouvons maintenant nous glorifier même des afflictions, parce que nous savons que Dieu utilise ces afflictions pour notre bien. Comment se fait-il que nous qui étions les ennemis de Dieu, Nous pouvons maintenant nous glorifier en Dieu lui-même, par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment se fait-il que l'action d'une seule personne, comme nous avons vu la dernière fois, l'action d'une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ, peut apporter la justification, la vie et plus tard la gloire à une multitude d'hommes et de femmes dans toute l'histoire? Comment est-ce que c'est possible que l'action d'une seule personne ait un impact pour un si grand nombre? Comment se fait-il que le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a fait dans son incarnation, dans sa vie, sa mort, sa résurrection, peut sauver plus d'une seule personne dans le monde? Comment est-ce que cela est possible? Et Paul nous l'a expliqué, nous a emmené dans ce raisonnement, dans ce chapitre, dans ces versets, pour voir ce tableau de l'histoire, cette vue d'ensemble, et pour comprendre, pour garder en mémoire cette vue de l'histoire. Et la dernière fois, nous avons vu que la clé de ce passage se trouve à la fin du verset 14. Adam est la figure de celui qui devait venir. Et Paul nous a expliqué que lorsque Dieu a créé Adam, il ne l'a pas créé comme un individu isolé, mais comme le représentant, comme la tête de l'humanité. Et en sorte que ce que Adam a fait dans sa désobéissance au commandement de Dieu, cette action a amené toute l'humanité, toute la race humaine dans un désastre, dans une catastrophe. Toute la race humaine s'est retrouvée séparée de Dieu. Tous sont devenus pécheurs. On a déjà vu ça dans les premiers chapitres. Et là, il le redit d'une autre manière. Mais, il rajoute, Christ est venu. Christ est venu comme le deuxième Adam, le dernier Adam, le deuxième homme. Et Paul veut que nous pensions, que nous réfléchissions de cette manière. Adam, le représentant de l'humanité, a apporté le désastre sur toute sa descendance. Mais Adam est une figure de celui qui devait venir, du Seigneur Jésus-Christ. Paul s'intéresse à Adam, oui, mais ce passage ne se focalise pas sur Adam, mais sur ce que nous pouvons apprendre du Seigneur Jésus-Christ à partir d'Adam. Adam qui est une figure de celui qui devait venir, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme cela qu'il est possible que le Seigneur Jésus-Christ vienne dans ce monde, qu'il vive, qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il monte à la gloire pour apporter la vie à une nouvelle humanité. Parce qu'il est ce deuxième représentant. Il est ce deuxième homme, il est ce dernier Adam. Il n'est pas venu dans ce monde pour vivre en tant qu'individu isolé, tout comme Adam. Il n'est pas venu pour vivre pour lui, mais il est venu comme représentant de son peuple. Et on a d'autres images dans l'Ancien Testament. On pense particulièrement au souverain sacrificateur qui entrait dans le temple, qui portait ses pierres précieuses sur lesquelles il y avait les noms des 12 tribus. Et il entrait au nom du peuple. Dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en venant dans ce monde, par sa vie d'obéissance, sa mort, sa résurrection, son ascension à la droite du Père, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour son peuple, pour ceux qu'il représentait. Et Paul de souligner, tout comme Adam a amené la tragédie, la calamité, la mort, la destruction, la séparation avec Dieu, le Seigneur Jésus-Christ apporte la justice. Il apporte le salut, il apporte la grâce, il apporte la gloire à tous ceux qu'il représente. Il y a ces deux hommes, il y a Adam et il y a le Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, dans un sens, ils se tiennent en parallèle. Adam est une figure, est une type de Christ, mais leurs actions sont radicalement différentes. La seule offense d'Adam apporte la condamnation. La vie parfaite, la obéissance parfaite du Seigneur Jésus-Christ, sa mort cruelle, son sacrifice sur la croix pour payer la pénalité de notre échec, cela nous amène la vie. Deux actions qui sont radicalement différentes et qui ont des conséquences qui sont radicalement différentes. En Adam, nous dit Paul, le péché a régné par la mort, mais la grâce règne par la justice, par le Seigneur Jésus-Christ. Cela conduit non seulement à la vie, mais à la vie éternelle. Ou pour utiliser une autre image, il y a des événements à Chalon où on va donner aux participants des t-shirts avec une inscription dessus. Les supporters de l'Élan, par exemple, ont un t-shirt rouge et blanc avec l'inscription « Élan Passion ». Dans quelques semaines, il y a une marche, on appelle la marche rose, contre le cancer. Et les participants vont recevoir un t-shirt sur lequel il y a une inscription qui va marquer le coup. Paul nous dit que tous les descendants d'Adam, à l'exception du Seigneur Jésus-Christ, tous les descendants d'Adam ont un t-shirt sur lequel il est écrit « Je suis pécheur, je suis tombé en Adam ». Mais le Seigneur Jésus-Christ vient et il nous revêt de ses habits de justice sur lesquels il est écrit « Justifié en Christ ». Je suis justifié en Jésus-Christ. La gloire, la grâce règne, la gloire est promise, le ciel est une certitude, les nouveaux cieux, la nouvelle terre sont une promesse pour le chrétien, une destinée pour le chrétien. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'il a pris notre place, qu'il a obéi là où nous avons péché, là où nous ne pouvions pas obéir. Il a souffert la mort que nous méritions de connaître sous le jugement de Dieu. Et il nous donne la vie et la vie éternelle. Pour reprendre une autre image, par nature, nous sommes nés dans la prison d'un homme endetté. Nous sommes dans une situation qui est désespérée. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a aucun moyen de gagner notre sortie. Mais dans sa miséricorde, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver de cette situation désespérée, de cette prison d'homme endetté. Et il l'a fait en payant la dette à notre place. Paul nous a décrit, il veut que nous voyons cette image, cette vue d'ensemble, ce tableau de l'histoire devant nous. Deux hommes, deux représentants. Et il continue au verset 17, il écrit ici « Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ». Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul, à plus forte raison. Paul veut que nous réalisions que le Seigneur n'est pas un sauveur qui est réticent. Dans le sens que Jésus ne dit pas, ou Dieu ne dit pas, je vais les sauver, mais sans plus. Malheureusement, certains chrétiens pensent dans ce sens. Mais Paul dit, mais regardez, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de Dieu, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Paul est en train de dire, ce n'est pas simplement que le péché a régné autrefois et que maintenant c'est la grâce qui règne. Non, il y a plus que cela. Là où la mort a régné par un seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Ils régneront, au pluriel, voilà la vie chrétienne. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des luttes, oui, il y a le conflit avec le péché qui est encore en nous. Oui, il y a les tentations du monde, de la chair, du diable. Mais au milieu de cela, dit Paul, nous régnons dans la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien de réticent de la part de Dieu. Au contraire, c'est un salut qui est gratuit, c'est un salut qui est royal, qui est abondant. Paul ne cesse de nous rappeler dans ce passage, comme nous l'avons déjà souligné la dernière fois, que Dieu nous a donné beaucoup plus. Beaucoup plus que ce que nous avons en Adam. Et nous devons nous en saisir. Nous devons revenir à cette réalité. Il y a bien plus de grâce en Christ qu'il n'y a de péché en nous. Et Paul ne cesse de nous dire, revenons, revenons à ce camp de base avant d'aller plus loin. Revenons à ce camp de base, revenons, saisissons-nous de ces réalités. Paul nous a montré donc le tableau de l'histoire. Mais Paul s'était posé une question et il s'attendait à ce que d'autres se posent cette même question. Il nous a montré la vue d'ensemble, le tableau de l'histoire. Il y a Adam et toute l'humanité qui est en Adam, et il y a Jésus-Christ et la nouvelle humanité qui est en Jésus-Christ. Par nature, nous sommes en Adam, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en Christ. Voilà l'histoire, voilà la vue d'ensemble, le tableau, voilà le salut. Mais quelqu'un va dire, Paul, en disant cela, tu as supprimé tout le reste de l'Ancien Testament, depuis la fin de la Genèse jusqu'au début de Matthieu. Tu nous présentes Adam comme le représentant de l'humanité. Tu nous présentes le Seigneur Jésus-Christ comme le représentant de la nouvelle humanité. Mais tu ignores tout ce qui est entre les deux. Et il y a une question qui est soulevée. Et si on voit le début du verset 20, on peut voir la question. La question est, quelle est la place de la loi de Moïse dans l'histoire? Quelle est la place de la loi de Moïse? Cette même question a été soulevée dans la lettre aux Galates, qui était écrite avant cette lettre aux Romains, et on a lu tout à l'heure un passage de cette lettre. Paul parle du salut qui vient par la promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais quelqu'un va dire la même chose. Paul, tu passes d'Abraham à Christ. Tu oublies la loi. Quel est le but de la loi? Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? C'est ce que Paul veut nous expliquer dans la fin de ce passage, les versets 20 et 21. Paul va nous emmener un peu plus loin, maintenant vers le sommet. Quand on aura un peu des difficultés à respirer, Paul va nous dire de revenir au camp de base pour nous rappeler des vérités. C'est ce qu'il va faire, par exemple, quand il va nous emmener au chapitre 7, en parlant de la loi. Ici, il nous donne une réponse qui est courte. On a déjà vu Paul aborder cette question au chapitre 3, par exemple. Paul a déclaré l'évangile. Et on entend presque quelqu'un dire à Paul, « Mais Paul, tu es en train d'annuler la loi. » C'est comme si tu disais qu'il n'y avait pas de place pour la loi. Et Paul répond à la fin du chapitre 3, « Loin de là, nous ne rejetons pas la loi, nous confirmons la loi. » Et Paul ensuite continue avec son développement au chapitre 4. Et on peut se demander, on peut se poser la question, mais qu'en est-il de la loi? Quelle est la place de la loi? Ici, il nous donne un indice supplémentaire. Verset 20, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a deux points que nous voulons souligner ce matin. Tout d'abord, ce que Paul dit au sujet de la loi de Dieu et de son impact. Paul ne dit pas tout au sujet de la loi dans ce passage, mais ce qu'il dit est important. Ce que Paul dit au sujet de la loi de Dieu et de son impact, et deuxièmement, ce que Paul dit au sujet de la grâce de Dieu et de son impact qui est bien plus grand. Premièrement donc, ce que Paul dit au sujet de la loi. Verset 20, Paul dit « La loi est intervenue, elle est entrée dans le tableau, dans l'histoire. » Intéressant le langage que Paul utilise, c'est Paul disait, comme si Paul disait, voilà, je vous ai présenté ce tableau de l'histoire, il y a Adam d'un côté, il y a le Seigneur Jésus-Christ de l'autre, et la loi a été insérée, elle est intervenue. Pour prendre une illustration d'aujourd'hui, c'est comme une carte mémoire, une micro-carte SD par exemple, qu'on va insérer dans le téléphone, dans un but bien précis, avoir plus de mémoire. Mais le téléphone fonctionne très bien sans la carte. Mais on va l'insérer, ce qui veut dire qu'on peut aussi la ressortir. Et voilà l'idée. La carte est insérée. Et Paul nous dit qu'on doit comprendre la loi de Moïse que cette loi a été mise en place par Dieu pour deux raisons, pour deux buts bien précis. Elle a été insérée. Avant de voir les buts, rappelons-nous de certaines choses. On a déjà vu dans au chapitre 2, dans les versets 12 à 15, que Paul affirme que lorsque Dieu a créé le premier Adam, il l'a créé avec la possession de désir que Dieu a placé dans le cœur d'Adam. Et de cette manière, il était naturel pour Adam d'aimer Dieu. Il était naturel pour Adam de ne pas dérober, de ne pas convoiter. Il était naturel pour Adam de dire la vérité. Il était naturel pour Adam d'être fidèle. Mais ce qui s'est passé chez Adam quand il a péché, quand il a chuté, c'est que la clarté des désirs que Dieu avait mis en Adam, la puissance des instincts que Dieu avait placés en Adam, cette clarté est maintenant opaque. Cette puissance maintenant est dépouillée de sa force. Et Adam ne possède plus les désirs, les affections pour plaire à Dieu, tels que Dieu les lui avait donnés à la création. Mais Adam n'a pas cessé d'être l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde des personnes qui n'ont jamais reçu la loi de Moïse et qui pourtant, dans une certaine mesure, vont être conséquents avec cette loi. Est-ce qu'ils vont montrer qu'il y a des éléments qui sont dépouillés, oui, mais des éléments de cette loi qui est encore là. On peut prendre l'image d'une ruine de château. Quand on voit la ruine, on a des indices de la gloire passée du château. Mais aujourd'hui, on ne voit que des ruines. Le château ne fonctionne pas comme il était prévu qu'il fonctionne. C'est la même chose pour l'homme aujourd'hui. On voit des hommes, des païens, qui ne possèdent pas la loi de Moïse. Mais ils ont quand même une idée de la différence entre le bien et le mal. Alors, ils ne s'entendent pas sur les détails, bien entendu. Leur réflexion n'est pas claire, leurs désirs ne sont pas clairs. Mais il y a un élément qui est là, qui reste. C'est pour ça que dans la promesse de l'Évangile, Dieu dit qu'il viendra pour écrire sa loi dans nos cœurs. Il va mettre sa loi dans nos cœurs. Ça, c'est la promesse que nous lisons en Jérémie 31, par exemple. Et le premier but de la loi, donc, quand la loi de Moïse a été donnée, le premier but a été de clarifier. De clarifier. Quand Dieu écrit sa loi sur les... Quand Dieu donne sa loi à Moïse, qu'il l'écrit sur les tables, mais qu'il donne toute la loi, c'est pour clarifier sa volonté, pour révéler sa volonté. Et même dans la façon de donner la loi, il y a quelque chose de différent. La loi est donnée essentiellement en des termes négatifs. Parce que cette loi est donnée maintenant à des pécheurs. Elle n'est plus donnée à des êtres humains qui sont innocents, comme dans le jardin d'Éden avant la chute. Non, elle s'est donnée maintenant à des pécheurs. Dieu doit dire non, non. Dans le jardin d'Éden, avant la chute, Dieu s'adressait à Adam et disait « Oui, suis les instincts que je t'ai donnés, suis les désirs que j'ai placés dans ton cœur, suis cela, oui, suis tes pensées, fais ces choses. Je ne dis non qu'à une seule chose, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais maintenant, Dieu doit dire non à beaucoup de choses. Comme un père doit dire non à ses enfants, parce que ceci va te faire du mal ou ceci va t'amener des problèmes. Mais c'est notre instinct maintenant, par notre nature pécheur, de faire ces mauvaises choses, de désirer ces mauvaises choses. Dieu donne sa loi dans des termes essentiellement négatifs. Et parce que Dieu a choisi Israël pour être le peuple par lequel la promesse du salut va arriver, Dieu va donner à ce peuple des commandements qui, pour nous aujourd'hui, paraissent assez étranges, assez spéciaux, des commandements qui vont faire que ce peuple est totalement différent des autres nations, des commandements qui vont mettre ce peuple à part des autres nations. De sorte que dans cette communauté, la promesse de Dieu soit gardée jusqu'à la venue du Sauveur. C'est pour ça qu'il y a des lois dans l'Ancien Testament qui semblent pour nous avoir très peu de logique, parce qu'on ne les pratique pas. Alors pourquoi est-ce que Dieu les a données ? Parce qu'il voulait garder ce peuple différent des autres. Mais quand on lit l'histoire, on voit ce peuple qui ne garde pas ses commandements et qui ne cesse de se détourner, qui ne cesse de désobéir. Mais dans sa grâce, Dieu a donné, dans sa loi, il a aussi donné des cérémonies, il a aussi donné des sacrifices. Et dans ces sacrifices, il disait, je suis un Dieu qui pardonne. Je suis un Dieu qui pardonne, mais mon pardon a un prix. Je vous donne un sacrifice qui va me coûter très cher. C'est le sacrifice de mon propre fils. Mais jusqu'à sa venue, continuez dans ces ombres, continuez avec ces images, continuez avec ces sacrifices d'animaux. Mais regardez au-delà de ces sacrifices, au-delà de ces images. Les sacrifices d'animaux ne peuvent jamais ôter les péchés. Celui qui offre ce sacrifice aujourd'hui, demain, il va se lever pour offrir un nouveau sacrifice, etc., etc. Ces sacrifices ne peuvent pas ôter les péchés. Mais regardez au-delà, vers le sacrifice du Fils qui vient et qui va accomplir le salut, qui va ôter les péchés du peuple de Dieu. La loi de Dieu, dans sa totalité, est intervenue, a été insérée, elle est entrée dans le monde, elle est insérée dans le tableau de l'histoire. Paul nous le dit, pour que l'offense abonde. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Verset 13, il nous dit que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Il y avait bien sûr le péché avant la loi de Moïse, depuis la chute d'Adam. Jusqu'à Moïse, le péché était là. Mais c'est vrai qu'il est difficile de le comptabiliser quand on n'a pas une définition de ce qu'est le péché. C'est pour cela que, par exemple, les patriarches étaient tellement embrouillés parce qu'ils ne voyaient pas les choses clairement. Le don de la loi révèle ce qu'est le péché. Par exemple, on marche avec le désir de posséder ce que les autres ont. Notre esprit est embrouillé et on pense qu'on mérite ces choses et on va prendre ces choses. Mais quand la loi intervient, elle nous dit « tu ne convoiteras pas ». Elle nous dit « tu ne déroberas pas ». Et là, ça devient clair. Ce qui est dans mon cœur, en fait, ce n'est pas quelque chose de neutre. Ce n'est pas quelque chose que Dieu peut ignorer, non. La loi intervient pour que le péché, pour que l'offense abonde. Pour reprendre une autre image, c'est comme une loupe. Avec une loupe, on peut voir clairement. Et la loi a été insérée pour révéler ce qui est là depuis la chute d'Adam, le péché. Le péché qui est là dans notre cœur, ce que par nature, on ne voit pas clairement. Parce que nos yeux sont maintenant brouillés. La loi a été insérée pour clarifier. La deuxième chose que Paul dit, c'est que le deuxième but de la loi, et il va aller plus loin au chapitre 7, mais ici, c'est que l'existence même de la loi me provoque. Dieu me dit dans sa loi, en me donnant sa loi, Dieu me dit, c'est moi qui suis ton maître. Fais ce que je te dis, parce que moi, je sais ce qui est bon pour toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait par nature ? Par nature, on dit, mais de quel droit est-ce que tu décides ce qui est bon pour moi ? C'est moi qui vais décider ce qui est bon pour moi. La loi de Dieu, elle me provoque. On peut utiliser beaucoup d'images. On peut penser à un enfant, par exemple, qui marche à côté d'une belle pelouse qui est bien entretenue avec un beau parterre de fleurs. Et il y a un panneau, c'est marqué « Défense ». De marcher sur la pelouse. Qu'est-ce que l'enfant a envie de faire? De marcher sur la pelouse. Et c'est la même chose, défense de toucher. Oula, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut toucher. Parce que ça nous provoque, ça crée ce désir. Et la loi de Dieu se tient. Et la loi de Dieu, elle nous dit, voilà ce que vous êtes. Elle révèle en nous ce qui est là au fond de notre cœur. La loi nous dit, je vais te montrer qui tu es réellement. Ce que tu es réellement, ce qui est réellement au fond de ton cœur. La loi est venue pour que l'offense abonde. Paul, je pense, s'est rappelé de l'histoire, de toute l'histoire d'Israël. L'Ancien Testament nous parle de la loi qui a été insérée dans l'histoire. Et l'Ancien Testament est comme un catalogue du peuple qui ne cesse de faire abonder l'offense. Toutes les désobéissances, les éloignements de Dieu, le peuple se détourne de Dieu. Tout au long, on revient sans arrêt tout au long de l'histoire d'Israël. Mais c'est vrai depuis le début, depuis le jour où Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse est descendu avec les tables de la loi. Et que faisait le peuple? La meilleure réponse qu'Aaron a pu trouver, c'est ben, « j'ai jeté l'or dans le feu et puis voilà, il est sorti ce veau d'or ». Moïse dit « non, ça c'est de l'idolâtrie ». Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour cela que la loi est venue. Elle a eu un impact énorme parce qu'elle met en évidence le péché pour ce qu'il est réellement. Elle révèle le péché. La loi est venue pour que l'offense abonde. Et on doit se rappeler de cela aujourd'hui. Parfois, on pense que sous l'influence de certaines personnes, on peut penser que ce dont on a besoin, c'est davantage d'éducation, davantage de lois pour empêcher les personnes de faire certaines choses. Mais ni la loi, ni l'éducation ne transforment le cœur. Elles ont une place, bien entendu. Elles ont une place dans la société, mais elles sont sans force. Et en fait, on pourrait même dire qu'elles nous donnent l'information pour pécher davantage. Et on voit ça encore aujourd'hui. Paul nous dit que lorsque la loi intervient, elle nous provoque. Elle nous provoque, elle révèle le péché pour ce qu'il est réellement. Et elle nous déclare que nous sommes condamnés. Elle nous révèle comme pécheurs. Et quand on commence à saisir cela, quand on commence à comprendre que cette loi a été insérée dans le tableau, dans le grand tableau de l'histoire, pour que l'offense abonde, pour que l'on voit le péché pour ce qu'il est, on commence à voir la merveille du deuxième point, ce que Paul dit au sujet de la grâce de Dieu et de son impact bien plus grand. La loi, verset 20, est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a une chose que nous devons nous rappeler, et nous l'avons souligné la dernière fois, mais je le redis encore ce matin, il y a plus de grâce en Jésus-Christ qu'il y a de péché en nous. Alors c'est un enseignement qui est dangereux. Mais si on ne croit pas cet enseignement dangereux, on n'a pas saisi l'Évangile. On ne saura pas ce que veut dire la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. On va trébucher dans la vie, on va douter, mais on ne régnera jamais dans la vie avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que l'on comprenne que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce de Jésus-Christ est gratuite. Elle couvre tous nos péchés, tous nos manquements. Nous ne pouvons rien faire. Il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a aucun niveau de sainteté à atteindre pour goûter à cette grâce. Il suffit de venir à Christ sans rien à nous, les mains ouvertes, pour recevoir tout de lui, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, il l'a fait pour son peuple. Nous ne pouvons rien apporter pour participer. Non, tout vient de lui, c'est gratuit. Pourquoi est-ce que cet enseignement est dangereux? Parce que quelqu'un va se dire, si là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, alors je vais continuer à pécher, afin que la grâce surabonde. Voilà pourquoi c'est un enseignement qui est dangereux. Mais il suffit d'aller au chapitre suivant, au chapitre 6, et les deux premiers versets. Et Paul va continuer, il va répondre à cette intervention. Il va dire à cette personne, mais que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et Dieu voulant, on développera ça dans les semaines à venir. Mais Paul montre que c'est un enseignement qui est dangereux. Mais la grâce est gratuite, elle est abondante. Mais celui qui pense qu'il peut continuer à vivre dans le péché pour que la grâce abonde n'a pas compris ce qu'est l'Évangile. Il n'a pas compris comment fonctionne la grâce. Mais même si c'est dangereux, ne minimisons pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Paul n'a cessé de le souligner. Il veut que nous nous rappelions ceci tous les jours. Le Seigneur Jésus-Christ est bien plus grand qu'Adam. La grâce de Dieu en Jésus-Christ est bien plus grande que tous mes péchés. Si je viens à Christ dans la repentance et la foi, je peux être confiant que la grâce de Dieu en Christ est toute suffisante pour me recevoir, pour pardonner, pour m'accepter dans sa présence. La grâce de Dieu en Christ est bien plus grande que tous mes péchés. Venons donc à Christ, plongeons-nous dans cette grâce, dans cet évangile, afin de goûter une joie, de goûter une liberté en Christ, et de commencer à comprendre ce que c'est que régner avec Christ dans ce monde. Ne pensons pas que Dieu nous donne sa grâce en petites doses, dans des dosettes limitées. Non. Il ne donne pas non plus sa grâce à ceux qui ont atteint un certain niveau de sainteté. Non. On ne peut absolument rien pour obtenir cette grâce. Cette grâce, elle est donnée à ceux qui viennent en Christ, dans la repentance et la foi. On reçoit ce que Christ a fait, et on le reçoit gratuitement, on le reçoit librement, sans rien de notre part, sans avoir fait quoi que ce soit pour mériter. On ne mérite pas, on ne mérite que la colère de Dieu. Ce que Dieu nous donne en Christ, il nous le donne gratuitement, et nous ne pouvons absolument rien offrir en échange, si ce n'est venir à lui les mains ouvertes, pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous donne cela. Venons à Christ, goûtons cette grâce, plongeons dans cette grâce. Reconnaissons que nous n'avons absolument rien à offrir. Et découvrons cette vie, ce règne avec Christ, dans cette vie, mais aussi jusque dans la gloire. Que Dieu nous aide à comprendre cela, qu'il nous aide à vivre cela, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.